Volume 2, section 5. La divinité cachée, ses symboles et ses glyphes. Le logos, ou divinité créatrice, le verbe fait chair de toute religion, doit être suivi jusqu'à sa source et son essence primordiale. Aux Indes, c'est un proté dont chacune des transformations personnelles à 1008 noms et aspects divins, depuis Brahma Purusha jusqu'aux avatars divino-humains, en passant par les sept rishis divins et les sept prajapatis semi-divins, qui sont aussi des rishis. Le même problème énigmatique de l'un en plusieurs et de la multitude en un se retrouve dans d'autres panthéons, ceux des Égyptiens, des Grecs et des Judéo-Chaldéens, ces derniers ayant augmenté encore la confusion en représentant leurs dieux comme des évémérisations sous forme de patriarches. Et ces patriarches sont aujourd'hui acceptés par ceux qui écartent Romulus comme un mythe et sont représentés comme des entités vivantes et historiques. Verbum satis sapienti. Entre parenthèses, un mot suffit aux sages. Dans le Zohar, Ein Sof est aussi l'un, l'infinie unité. Quelques-uns parmi les plus érudits des pères de l'Église savaient aussi que Jéhovah n'était pas le Dieu le plus haut, mais une puissance de troisième ordre. Mais tout en se plaignant amèrement des gnostiques et en disant « Nos hérétiques croient que Propator n'est connu que du Fils seul engendré, qui est Brahma, c'est-à-dire du mental, entre parenthèses nous », Irénée omit de dire que les Juifs en faisaient autant dans leur véritable livre secret. Valentin, le plus profond docteur de la gnose, était d'avis qu'il avait existé avant Bitos, le premier père de l'insondable nature qui est le second logos, un aïon parfait appelé Propator. C'est cet aïon qui jaillit comme un rayon d'Ein Sof, qui ne crée pas, et c'est cet aïon qui crée, ou plutôt par l'intermédiaire de qui tout est créé ou évolue. Car ainsi que l'enseignèrent les Basilidiens, il y avait un dieu suprême, Abraxas, par qui fut créé le mental, entre parenthèses Maa en sanskrit, nous en grec. Du mental procéda le verbe, logos, du verbe la providence, ou plutôt la lumière divine. Puis de celle-ci la vertu et la sagesse, en principauté, pouvoir, anges, etc. Par ces anges furent créés les 365 éons. En vérité, parmi les moins hauts et parmi ceux qui firent ce monde, Basilide place au dernier rang le dieu des Juifs, qu'il refuse, entre parenthèses avec raison, d'admettre comme dieu, et qu'il affirme être un des anges. Nous trouvons donc ici le même système que dans les Puranas, où l'incompréhensible laisse tomber une semence qui devient l'œuf d'or d'où sort Brahma. Brahma produit Maa, etc. Cependant, la vraie philosophie ésotérique ne parle ni de création ni d'évolution, dans le sens que les religions exotériques donnent à ces mots. Tous ces pouvoirs personnifiés ne sont pas évolués les uns des autres, mais sont autant d'aspects de l'unique et seule manifestation du tout absolu. Le même système que celui des émanations gnostiques prévaut dans les aspects séphirotiques d'Ein Sof, et comme ces aspects sont dans l'espace et le temps, un certain ordre est maintenu dans leurs apparitions successives. Il devient donc impossible de ne pas tenir compte des grands changements que le Zohar a subis par suite de la manipulation de la part de maintes générations de mystiques chrétiens. Car même dans la métaphysique du Talmud, la face inférieure, l'apparence moindre, ou microprosopus, ne pouvait jamais être placé sur le même plan d'idées abstraites que la supérieure ou apparence majeure ou macroprosopus. Ce dernier est, dans la Kabbale chaldéenne, une pure abstraction, le verbe ou logos, ou en hébreu « dabar », lequel verbe, bien qu'il devienne en fait un nombre pluriel, ou verbe au pluriel, « d-a-b-a-r-i-im », lorsqu'il se réfléchit lui-même ou tombe jusqu'à l'aspect d'une légion d'anges ou de séphiros, le nombre n'en est pas moins collectivement un, et sur le plan idéal, un zéro, rien. Il est sans forme ou être, ne ressemblant à rien d'autre. Philon lui-même appelle le Créateur, le Logos, qui vient juste après Dieu, le second Dieu, lorsqu'il parle du second Dieu qui est sa sagesse à lui, entre parenthèses le Dieu supérieur. La divinité n'est pas Dieu, elle est le rien et les ténèbres. Elle n'a point de nom et c'est pourquoi elle est appelée Ein Sof, le mot Ayin signifiant rien. Le Dieu supérieur, le Logos non manifesté, est son Fils. La plupart des systèmes gnostiques qui nous sont parvenus, mutilés comme ils le sont par les pères de l'Église, ne sont aussi rien de mieux que les coques défigurées des spéculations originales. Ils n'ont du reste jamais été ouverts au public ou aux lecteurs ordinaires, car si leur signification cachée ou leur ésotérisme avait été révélé, ce n'aurait plus été un enseignement ésotérique et cela ne pouvait être. Marcus, le chef des Marcosiens, qui vécut au milieu du IIe siècle et qui enseigna que la divinité devait être étudiée sous le symbole de quatre syllabes, révéla au public plus de vérités ésotériques qu'aucun autre gnostique. Mais lui-même ne fut jamais bien compris. Car ce n'est qu'à la surface, ou en s'en tenant à la lettre morte de sa révélation, qu'il semble que Dieu soit un quaternaire, à savoir, entre guillemets, l'ineffable, le silence, le Père et la vérité, fermez les guillemets, puisqu'en réalité c'est tout à fait erroné et ne divulgue qu'une énigme ésotérique de plus. Cet enseignement de Marcus fut celui des premiers kabbalistes et c'est le nôtre. Car il fait de la divinité le nombre 30 en quatre syllabes, ce qui, traduit ésotériquement, signifie une triade ou un triangle et un quaternaire ou carré, 7 en tout, qui sur le plan inférieur ont constitué les 7 lettres divines ou secrètes dont est composé le nom de Dieu. Cela exige une démonstration. Dans sa révélation, en parlant des mystères divins exprimés au moyen de lettres et de nombres, Marcus raconte comment la tétrade suprême descendit, jusqu'à lui, de la région qui ne peut pas être ni vue ni nommée, sous une forme féminine, parce que le monde eût été incapable de supporter son apparition sous une forme masculine, et comment elle lui révéla la génération de l'univers qui n'avait jamais été révélée auparavant, ni aux dieux, ni aux hommes. La première phrase renferme déjà un double sens. Pourquoi une apparition féminine serait-elle supportée ou écoutée par le monde plus facilement qu'une forme masculine ? Au premier abord, cela paraît un non-sens. Mais pour celui qui connaît la langue des mystères, c'est tout à fait clair et simple. La philosophie ésotérique, ou sagesse secrète, était symbolisée par une forme féminine, tandis qu'une forme masculine représentait le mystère non dévoilé. C'est pourquoi le monde, n'étant pas prêt à le recevoir, ne pouvait pas le supporter, et la révélation de Marcus devait être donnée allégoriquement. C'est ainsi qu'il écrit. Lorsque d'abord son père, entre parenthèses de la tétrade, l'inconcevable, le sans-être, le sans-sexe, entre parenthèses l'Ein Sof kabbalistique, désira que son ineffable, entre parenthèses le premier logos ou éon, naquit, et que son invisible se revêtit d'une forme, sa bouche s'ouvrit et prononça le verbe comme pour lui-même. Ce verbe, entre parenthèses logos, se tenant à côté de lui montra ce qu'il était, se manifestant sous la forme de l'invisible unique. Le nom, entre parenthèses ineffable, fut émis, entre parenthèses par le verbe, de la façon suivante. Lui, le logos suprême, prononça le premier mot de son nom, qui était une combinaison de 4 lettres. Puis la seconde combinaison, composée aussi de 4 éléments, fut ajoutée. Enfin la troisième, composée de 10 éléments, et ensuite la quatrième, contenant 12 éléments, furent prononcées. L'émission du nom entier comprenait donc 30 éléments et 4 combinaisons. Chaque élément a ses propres lettres, son caractère particulier, sa prononciation, ses groupements et ses similitudes, mais aucun d'eux ne perçoit la forme de ce dont il est l'élément, ni ne comprend la parole de son voisin, mais ce que chacun prononce lui-même, comme s'il articulait tout, entre parenthèses ce qu'il peut, il trouve bon de l'appeler le tout, et ce sont des sons qui en forme manifestent l'éon sans être et sans génération, et ce sont ces formes que l'on appelle les anges qui regardent sans cesse la face du Père. entre parenthèses le Logos, le second Dieu qui se tient juste après Dieu l'inconcevable selon Philon. C'est aussi clair que le permettait le secret ésotérique antique. C'est aussi kabbalistique, quoique moins voilé, que le Zohar, dans lequel les noms ou attributs mystiques sont aussi des mots de 4, de 12, de 42 et même de 72 syllabes. La tétrade montre à Marcus la vérité sous la forme d'une femme nue et désigne par une lettre chacun des membres de cette forme, appelant sa tête A, son cou B, ses épaules et ses mains X, etc. On reconnaît facilement en elle Séphira, la tête ou couronne, Keter, portant le numéro 1, le cerveau ou Chokma, 2, le cœur ou intelligence, Bina, 3, et les sept autres séphiroth représentant les membres du corps. L'arbre séphirotal est l'univers, et en Occident il est personnifié par Adam Kadmon, comme par Brahma en Inde. Partout, les 10 séphiroth sont représentés comme divisés en 3 supérieurs ou la triade spirituelle et un septénaire inférieur. La vraie signification ésotérique du nombre sacré 7, quoique soigneusement voilée dans le Zohar, est trahie par la double façon d'écrire l'expression « au commencement » ou « bareshit » ou « bereshat », ce dernier mot signifiant la sagesse supérieure ou la plus haute. Comme l'ont démontré MacGregor Mathers et Isaac Meyer, chacun de ces kabbalistes s'appuyant sur les meilleures autorités antiques, ces mots ont une signification double et secrète. Bereshit bara Elohim signifie que les six au-dessus desquels se tient la septième séphira appartiennent à la classe inférieure et matérielle, ou comme le dit l'auteur, sept sont appliqués à la création inférieure et trois à l'homme spirituel, le prototypique céleste Adam ou premier Adam. Lorsque les théosophes et les occultistes disent que Dieu n'est pas un être, car ce n'est rien, aucune chose, ils sont plus révérencieux et religieusement respectueux envers la divinité que ceux qui l'appellent Dieu, il, et font par conséquent de lui un mâle gigantesque. Celui qui étudie la Kabbale découvrira bientôt la même idée dans la pensée finale de ses auteurs, les premiers et grands initiés hébreux qui reçurent cette sagesse secrète à Babylone des hiérophantes chaldéens, comme Moïse acquit la sienne en Égypte. Le système du Zohar ne peut être bien jugé par ses traductions latines et autres, alors que toutes ces idées ont été adoucies et conformées aux idées et à la politique des adaptateurs chrétiens, car ces idées originales sont identiques à celles de tous ces autres systèmes religieux. Les différentes cosmogonies démontrent que l'âme universelle était considérée par chaque nation archaïque comme le mental du créateur démiurge, et qu'elle fut appelée la mère, Sophia ou la sagesse féminine par les gnostiques, Séphira par les juifs, Sarasvati ou Vak par les hindous, le Saint-Esprit étant aussi un principe féminin. Par conséquent, le Kurios ou Logos né d'elle était, chez les Grecs, le Dieu, le mental, entre parenthèses le nous. Kouros, kurios, signifie la nature pure et sans mélange de l'intellect, entre parenthèses sagesse, dit Platon dans Cratyle, et kurios est mercure, mercurios, marcurios, la sagesse divine, et mercure est sol, le soleil, de qui Thoth Hermès reçut cette sagesse divine. Aussi, tandis que les logoi de tous les pays et de toutes les religions sont corrélatifs sous leurs aspects sexuels avec l'âme féminine du monde ou du grand abîme, la divinité dont sont issus ces deux en un est toujours cachée et appelée l'incaché, et n'est reliée qu'indirectement à la création, parce qu'elle ne peut agir que par l'entremise de la force double qui émane de l'essence éternelle. Esculape, lui-même, qu'on a nommé le sauveur de tous, est identique selon les anciens écrivains classiques au Ptah égyptien, l'intellect créateur ou sagesse divine, et à Apollon. Baal, Adonis et Hercule, et Ptah, sous l'un de ses aspects, est l'anima mundi, l'âme universelle de Platon, l'esprit divin des Égyptiens, le Saint-Esprit des premiers chrétiens et des gnostiques, l'Akasha des hindous, et même sous son aspect inférieur la lumière astrale. Car Ptah était originairement le dieu des morts, celui dans le sein duquel ils étaient reçus, d'où les limbes des chrétiens grecs ou la lumière astrale. Ce fut beaucoup plus tard que l'on classa Ptah parmi les dieux solaires, son nom signifiant « celui qui ouvre », car il est représenté comme étant le premier à dévoiler la face de la momie morte et à appeler l'âme à la vie dans son sein. Knef, l'éternel non révélé, est représenté par l'emblème du serpent de l'éternité entourant un vase d'eau, la tête se mouvant sur les eaux qu'il féconde de son souffle, ce qui est une autre forme de l'unique idée originale des ténèbres, avec son rayon se mouvant sur les eaux, etc. Comme âme du Logos, cette permutation est appelée Ptah. Comme Logos créateur, elle devient Imhotep, son fils, le dieu au beau visage. Dans leur caractère primitif, ces deux-là étaient la première duade cosmique, Nout, l'espace ou ciel, et Nun, les eaux primordiales, l'unité androgyne, au-dessus de laquelle était le souffle caché de Knef. Et on leur consacrait à tous les animaux et les plantes aquatiques, l'ibis, le cygne, l'oie, le crocodile et le lotus. Revenons à la divinité kabbalistique, cette unité cachée est donc Ein Sof, le tout, l'infini, sans fin, sans borne, non existant, tant que l'absolu est contenu en Oulom. Note, chez les anciens juifs, comme l'a démontré Leclerc, le mot Oulom signifiait tout simplement un temps dont le commencement et la fin n'étaient pas connus. À proprement parler, le mot éternité n'avait pas dans la langue hébraïque la signification que les Védantins attachent, par exemple, à Parabrahma. Donc l'absolu contenu en nous l'homme, le temps sans borne et sans limite. Comme tel, Sof ne peut être ni le créateur ni le modeleur de l'univers, ni même Aor, entre parenthèses la lumière. Par conséquent, Ein Sof est aussi l'obscurité. L'infini immuable et le sans borne absolu ne peuvent ni vouloir, ni penser, ni agir. Pour le faire, il faut devenir fini, et cela il l'accomplit en faisant pénétrer son rayon dans l'œuf du monde ou espace infini, et en en sortant comme un dieu fini. Tout cela est laissé au rayon qui est latent dans l'un. Lorsque le moment arrive, la volonté absolue déploie naturellement la force qui est en elle, selon la loi dont elle est l'essence intérieure et finale. Les Hébreux n'adoptèrent pas l'œuf comme symbole, mais ils le remplacèrent par les doubles cieux, car traduite correctement la phrase « Dieu créa les cieux et la terre » devrait être rendu ainsi, dans et en dehors de son essence, comme matrice, entre parenthèses l'œuf du monde, Dieu créa les deux cieux. Les chrétiens cependant ont choisi la colombe, l'oiseau et son œuf comme symbole de leur Saint-Esprit. Quiconque acquiert la connaissance de Oud, de la Merkaba et du Lagash, entre parenthèses langue ou incantation secrète, apprend le secret des secrets. La signification de Lagash est presque identique à celle de Vak, la puissance cachée des mantras. Lorsque la période active est arrivée, Séphira, le pouvoir actif, appelé le point primordial et la couronne, Keter, jaillit de l'éternelle essence d'Ein Sof. Ce n'est que par son entremise que la sagesse sans borne pouvait donner une forme concrète à la pensée abstraite. Deux côtés du triangle supérieur, par lequel l'essence ineffable et son corps manifesté, l'univers, sont symbolisés, le côté droit et la base sont composés de lignes continues, le troisième, le gauche, est en pointillé. C'est à travers ce dernier qu'émerge Séphira. Se répandant dans toutes directions, elle entoure finalement le triangle entier. Dans cette émanation, la triple triade est formée. De la rosée invisible qui tombe de l'unitriade supérieure, la tête, ne laissant ainsi que sept séphirotes, Séphira crée les eaux primordiales, ou en d'autres termes, le chaos prend forme. C'est la première étape vers la solidification de l'esprit, qui à la suite de diverses modifications produira la terre. « Il faut, dit Moïse, de la terre et de l'eau pour faire une âme vivante. Il faut l'image d'un oiseau aquatique pour la relier à l'eau, l'élément féminin de la procréation, à l'œuf et à l'oiseau qui le féconde. Lorsque Séphira émerge comme pouvoir actif hors de la divinité latente, elle est femelle. Lorsqu'elle prend le rôle d'un créateur, elle devient mâle. Par suite, elle est androgyne. Elle est le père et la mère, Aditi de la cosmogonie hindoue et de la doctrine secrète. Si les plus anciens écrits hébreux avaient été conservés, L'adorateur moderne de Jéhovah aurait trouvé que les symboles du Dieu créateur étaient multiples et malséants. La grenouille dans la lune, emblème typique de son caractère générateur, était le plus fréquent. Tous les oiseaux et les animaux que la Bible appelle maintenant impurs ont été dans les anciens temps les symboles de cette divinité. Un masque d'impureté leur était imposé pour les protéger contre la destruction, et cela parce qu'ils étaient trop sacrés. Le serpent d'airain n'a rien de plus poétique que le signe ou l'oie, si l'on doit prendre les symboles à la lettre. Suivant les termes employés dans le Zohar, le point indivisible, qui n'a pas de limite et qui ne peut être compris à cause de sa pureté et de son éclat, se dilata de l'extérieur, donnant naissance à une splendeur qui servit de voile au point indivisible. Cependant, ce voile lui aussi ne pouvait être contemplé à cause de sa lumière infinie. Lui aussi se dilata de l'extérieur et cette expansion forma son vêtement. Ainsi, par une succession de soulèvements, de mouvements, le monde finit par prendre naissance. La substance spirituelle qui jaillit de la lumière infinie est la première séphira ou shekina. Séphira, exotériquement, contient en elle-même les 9 autres séphirotes. Ésotériquement, elle n'en contient que 2, Chokma ou la sagesse, pouvoir masculin actif dont le nom divin est Jah, et Bina ou l'intelligence, pouvoir féminin passif, représenté par le nom divin de Jéhovah. Ces 2 pouvoirs forment, avec Séphira comme 3e, la trinité juive ou la couronne, Keter. Ces 2 séphirotes, appelées Abba, père, et Amona, mère, sont la duade, ou le logos bisexué de qui sortirent les 7 autres séphirotes. Ainsi, la première triade juive, Séphira, Chokma et Bina, est la Trimurti hindoue. Note. Dans le panthéon indien, le logos bisexué est Brahma, le créateur dont les 7 fils nés du mental sont les rishis primordiaux, les constructeurs. Fin de la note. Quelque voilé qu'il soit, même dans le Zohar et encore plus dans le panthéon exotérique de l'Inde, chaque détail qui se rapporte à l'un est reproduit dans l'autre. Les Prajapati sont les séphirotes. 10 avec Brahma, ils ne sont plus que 7 lorsque la Trimurti, ou la triade kabbalistique, est séparée du reste. Les 7 constructeurs, ou créateurs, deviennent les 7 Prajapati, ou les 7 rishis, dans le même ordre que les séphirotes deviennent les créateurs, puis les patriarches, etc. Dans les 2 systèmes secrets, l'essence unique universelle est incompréhensible et inactive dans son état absolu, et ne peut être reliée à la construction de l'univers que d'une façon indirecte. Dans tous deux, le principe primordial, mâle-femelle ou androgyne, et ses 10 et 7 émanations, Brahma Viraj et Aditi Vak d'une part, et l'Elohim Jéhovah ou Adam Adami, Adam Kadmon et Séphira Ève de l'autre part, avec leur Prajapati et leur Séphirot, représentent dans leur totalité, en premier lieu, l'homme archétype, le proto-logos, et ce n'est que sous leurs aspects secondaires qu'ils deviennent des pouvoirs cosmiques et des corps astronomiques ou sidéraux. Si Aditi est la mère des dieux, Devamatri, Ève est la mère de tous les vivants. Tous les 2 sont la Shakti, ou pouvoir générateur de l'homme céleste sous son aspect féminin, et tous les 2 sont aussi des créateurs complexes. Une Gupta Vidya Sutra dit « Au commencement, un rayon jaillissant de Paramartika, entre parenthèses l'unique et seule vraie existence, se manifesta en Vyavaharika, entre parenthèses l'existence conditionnelle, qui fut employé comme va-en pour descendre dans la mer universelle et l'amener à se dilater, entre parenthèses se gonfler, virgule, brille. Il est dit dans le Zohar, l'unité infinie sans forme et sans similitude, après que la forme de l'homme céleste fut créée, s'en servit. La lumière inconnue, entre parenthèses obscurité, se servit de la forme céleste, Adam Ila, comme d'un chariot, entre parenthèses Merkaba, au moyen duquel elle descendit et désira être appelée par le nom de cette forme, qui est le nom sacré de Jéhovah. Note à propos de la lumière inconnue. Rabbi Siméon dit « camarade, l'homme comme émanation était en même temps homme et femme, était autant du côté du père que du côté de la mère. Et telle est la signification des mots, et Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est l'homme double. Par conséquent, la lumière dans la Genèse représente le rayon androgyne ou l'homme céleste. Fin de la note. Et le Zohar dit encore plus loin, « Au commencement fut la volonté du roi, antérieure à toute autre existence. Elle, la volonté, esquissa la forme de toutes choses qui avaient été cachées, mais qui maintenant apparurent. Et comme un secret caché, il jaillit de la tête d'Ein Sof une nébuleuse étincelle de matière sans contour ni forme. La vie est tirée d'en bas et la source se renouvelle par en haut, la mer est toujours pleine et étend partout ses eaux. » La divinité est ainsi comparée à une mer sans rivage, à l'eau qui est la fontaine de la vie. Le septième palais, la fontaine de vie, est le premier en commençant par en haut. De là vient le dogme kabbalistique que nous trouvons sur les lèvres du trait kabbalistique Salomon qui dit dans les Proverbes « La sagesse a construit sa maison, elle a façonné ses sept piliers. » D'où viendrait donc toute cette identité d'idées s'il n'y avait pas eu une révélation universelle primordiale ? Les quelques points présentés jusqu'ici ne sont que quelques brins de paille arrachés à une meule en comparaison de ce que l'on expliquera dans la suite de l'ouvrage. Si nous nous reportons à la cosmogonie chinoise, la plus brumeuse de toutes, là aussi nous trouvons la même idée. Tsi Tsai, le soi existant, est l'obscurité absolue, la racine du Wu Liang She, entre parenthèses l'âge sans borne. Ce n'est que plus tard que vinrent Amitabha et Tien, entre parenthèses le ciel. Le grand extrême de Confucius donne la même idée malgré ses pailles. Ces dernières amusent beaucoup les missionnaires qui se moquent de toute religion païenne, méprisent et détestent celles de leurs frères chrétiens appartenant à d'autres dénominations, et cependant, tous tant qu'ils sont, acceptent littéralement leur propre genèse. Si nous examinons la cosmogonie chaldéenne, nous y trouvons, à nous, la divinité cachée, l'unique, dont le nom seul indique l'origine sanscrite, car « Anu » en sanskrit signifie « atome », Aniyasam, Aniyasam, le plus petit des petits. Étant un nom de Parabrahman dans la philosophie Vedanta où Parabrahman est représenté comme plus petit que le plus petit atome et plus grand que le plus grand globe ou univers, Anagraniyas et Mahatoruvat, le plus grand des plus grands. Dans les premiers versets de la Genèse akkadienne, comme on l'a découverte dans les textes cunéiformes sur les carreaux babyloniens ou Lateres Coctiles, et comme elle a été traduite par George Smith, nous trouvons Anu, la divinité passive ou Ein Sof, Bel, le créateur, l'esprit de Dieu, entre parenthèses Séphira, se mouvant sur la surface des eaux. Par conséquent, l'eau elle-même est Ea, l'homme universel ou la sagesse des trois réunis. Voici les huit premiers versets. Lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas créés, et qu'en bas sur la terre pas une plante n'avait poussé, les abîmes n'avaient pas encore rompu leurs bornes. Le chaos ou l'eau, Tiamat, la mer, était la mer productrice de tous. Entre parenthèses, c'est l'Aditi et la Séphira cosmique. Ces eaux, au commencement, furent ordonnées, mais aucun arbre n'avait poussé, aucune fleur ne s'était épanouie. Lorsque pas un des dieux n'avait surgi, aucune plante n'avait poussé et l'ordre n'existait pas. C'était la période chaotique ou antégénétique. Le signe double et le signe sombre qui devint blanc lorsque la lumière fut créée. Note. Les sept signes que l'on croit descendre du ciel sur le lac Manasarovara représente dans l'imagination populaire les sept rishis de la Grande Ourse qui prennent cette forme pour visiter la localité où furent écrites les Védas. Fin de la note. Le symbole choisi pour l'idéal majestueux du principe universel paraîtra peut-être répondre fort peu à son caractère sacré. Une oie, ou même un signe, semblera sans doute un symbole peu approprié pour représenter la majesté de l'esprit. Néanmoins, il doit avoir eu une profonde signification occulte, puisque non seulement on le trouve dans toutes les cosmogonies et dans toutes les religions du monde, mais qu'il fut encore choisi par les croisés, ces chrétiens du Moyen-Âge, comme le véhicule du Saint-Esprit, qu'on supposait conduire l'armée en Palestine pour arracher le tombeau du Sauveur des mains des Sarrasins. Si nous devons en croire ce que dit le professeur Draper dans son Intellectual Development of Europe, les croisés, conduits par Pierre l'Ermite, avaient comme conducteur à la tête de l'armée le Saint-Esprit sous la forme d'un jar blanc accompagné d'une chèvre. Seb, le dieu égyptien du temps, porte une oie sur sa tête. Jupiter prend la forme d'un cygne, ce que fait aussi Brahma, et la racine de tout cela est le mystère des mystères, l'œuf du monde. Il faudrait apprendre la raison d'un symbole avant de le décrier. L'élément double de l'air et de l'eau est celui de l'ibis, du cygne, de l'oie et du pélican, des crocodiles et des grenouilles, de la fleur de lotus et du nénuphar, etc. Et le résultat en est le choix des symboles les plus malséants par les mystiques de tous les temps, anciens et modernes. Pan, le grand dieu de la nature, était généralement représenté en compagnie d'oiseaux aquatiques, surtout des oies, et il en fut de même d'autres dieux. Si plus tard, avec la graduelle dégénérescence de la religion, les dieux auxquels les oies étaient consacrées devinrent des divinités priapiques, il ne s'ensuit pas que les oiseaux aquatiques aient été consacrés à Pan et à d'autres divinités phalliques, comme le disent quelques railleurs même anciens. Mais que le pouvoir abstrait et divin de la nature procréatrice avait été grossièrement anthropomorphisé. Le signe de Leda ne représente pas davantage des actes priapiques dont elle se serait réjouie, comme le dit chastement M. Hargrave Jennings, car ce mythe n'est qu'une autre version de la même idée philosophique de la cosmogonie. On trouve souvent les signes associés à Apollon parce qu'ils sont les emblèmes de l'eau et du feu, et aussi de la lumière du soleil, avant la séparation des éléments. Nos symbologistes modernes pourraient profiter de quelques remarques faites par un écrivain bien connu, Madame Lydia Maria Child, qui dit « De temps immémorial, un emblème a été adoré dans l'Hindoustan comme le type de la création ou de l'origine de la vie. Shiva, ou le Mahadeva, étant non seulement le reproducteur des formes humaines, mais aussi le principe fructifiant, le pouvoir générateur qui pénètre l'univers. L'emblème maternel est aussi un type religieux. Ce respect pour la production de la vie introduisit les emblèmes sexuels dans le culte d'Osiris. Est-il étrange qu'ils aient considéré avec respect le grand mystère de la naissance humaine? Était-il impur en le considérant ainsi? Ou sommes-nous impurs, nous, en ne le considérant pas de la même façon? Mais aucune intelligence pure et réfléchie ne pouvait les considérer ainsi. Nous avons beaucoup voyagé, et par des sentiers bien impurs. Depuis l'époque où les vieux ermites parlèrent pour la première fois de Dieu et de l'homme dans les profondeurs solennelles de leur premier sanctuaire. Ne sourions pas de leur façon de suivre la cause infinie et incompréhensible à travers tous les mystères de la nature, de peur qu'en le faisant, nous ne projetions l'ombre de notre propre grossièreté sur leur simplicité patriarcale. » Fin de citation. Fin de section.